diffusion de nos programmes va maintenant se poursuivre en français.
Bonjour, vous êtes bien sur Radio Prague et dans cette émission préparée pour vous par la rédaction française, nous parlerons de deux femmes, de la plasticienne Béla Kolářová, épouse du célèbre peintre écologiste Jiří Kolář, je rappelle que le couple a passé plusieurs années en exil en France, et de la romancière Božena Němcová, dont nous nous rappelons le 150e anniversaire de la mort. Au sommaire de cette émission également, notre rendez-vous bimensuel autour de votre courrier. Empreinte, trace, ligne en tchèque otisk, stopa, linie. Tel est le titre d'une exposition présentée jusqu'au 17 février à la Galerie Photographe à Prague. Elle présente les œuvres photographiques et expérimentations de Béla Kolářová, une artiste dont le talent a été reconnu sur le tard. Anna Kubišta s'est entretenue avec la commissaire de l'exposition, Marie Klimešová, qui a bien connu la photographe.
Culture sans frontières. Anna Kubišta.
Marie Klimešová, vous êtes la commissaire de cette exposition consacrée à Béla Kolářová qui se déroule jusqu'au 17 février à la galerie Photographe à Prague, dans la rue Školská numéro 28. Bonjour.
Bonjour.
Alors, pour commencer, Kolářová, évidemment, quand on entend ce nom, on entend tout de suite Jiří Kolář. Donc, on peut le dire en introduction que Béla Kolářová était l'épouse de Jiří Kolář, poète et écologiste, artiste tchèque très connu. Béla Kolářová semble avoir été un peu dans l'ombre de son mari pendant un certain temps, mais commence un petit peu à être plus connue depuis plusieurs années, en fait, en République tchèque.
Béla Kolářová n'était pas très bien connue pendant des années parce que avant qu'elle a parti en France, elle n'avait qu'une seule exposition personnelle. C'était en 1966. Alors, c'est pas trop. Dans les années 70, c'était pas possible d'exposer pour elle. Et elle a commencé à exposer plus régulièrement après le retour en Tchécoslovaquie au début des années 90. Mais Béla Kolářová était une femme très discrète. Elle donnait l'espace à son mari qui était vraiment célèbre. Elle a probablement bien compris que c'est pas possible que deux personnalités dans la même famille
ont
la même carrière. Alors, ce n'était qu'après la mort de Jiří Kolář que le public plus large a découvert son art. Et on pourrait même dire que dans un certain moment, ça a tout à fait tourné, que l'intérêt du public s'est concentré beaucoup plus à l'œuvre de Béla qu'à l'œuvre de Kolář.
Donc ici, on se trouve dans la galerie photographe, où il y a à peu près une trentaine d'œuvres qui sont exposées. Est-ce qu'on pourrait un petit peu parler, pour commencer, des techniques de travail ? C'est des photographies, mais un peu particulières. Alors, quelle était la technique favorite, en tout cas au début, de Béla Kolářová ?
Dans les années 50, Béla Kolářová a commencé avec une photographie documentaire tout à fait traditionnelle, on pourrait dire, mais très tôt, elle a découvert, grâce à une phrase de Cartier-Bresson, que tout était déjà photographié. Elle a fini cette carrière d'un photographe classique. Au début des années 60, elle a commencé avec des expériments. Elle a commencé à créer ses propres négatifs artificiels dont elle tirait des photographies. Très tôt, elle a continué avec d'autres expériments, ça veut dire par exemple avec le mouvement de la lumière qu'elle fixait au papier photographique dans la chambre noire.
Alors, cette exposition s'appelle en tchèque Otisk, Stopa, Linie, en français on pourrait dire empreinte, traces et lignes. Pour les personnes qui ne peuvent pas voir, parce qu'on est à la radio, est-ce que vous pourriez un petit peu décrypter ce titre par rapport à l'œuvre de Béla Kolářová?
Elle travaillait dans ce négatif artificiel, elle travaillait avec cette empreinte et les traces. Elle a utilisé des petites carrés de plastique qu'elle a couvert, par exemple, de paraffine. Et elle posait des petits objets tout à fait ordinaires sur cette surface. Les objets laissaient les traces, soit des empreintes. Et ensuite, alors, elle restait présente dans ce petit négatif sous la forme de la trace de la ligne et tout ça. Quant aux lignes, ça touche plutôt le mouvement qu'elle fixait dans les photographies, parce qu'elle travaillait avec un peu dans la tradition de rotoreliefs de Marcel Duchamp, avec la forme ronde, avec des cercles, mais tandis que Duchamp, pour Duchamp, le mouvement était le but de ce travail. Pour Kolářová, le mouvement était fixe sur la photographie, dans la forme de la ligne.
Quels étaient ses maîtres en photographie et en peinture? Parce que quand on regarde évidemment son travail, on ne peut pas ne pas penser à des grands maîtres de l'abstraction.
Elle était autodidacte, elle n'étudiait pas. Mais pour elle, même que pour Collage, la leçon de Dada était essentielle, je dirais. Alors, on pourrait nommer juste Duchamp, on pourrait nommer Man Ray ou Picabia. Je dirais, ces trois, c'était les maîtres de Béla Kolářová du point de vue de l'art. Mais aussi, il faut nommer des personnages de la littérature et de la poésie moderne, juste des milieux français comme Baudelaire, Mallarmé, Verlaine et d'autres.
Comme vous évoquez justement la France, quelle vie a-t-elle eu à Paris? Alors, il faut savoir qu'ils sont partis ensemble à la fin des années 70, Jiří Kolář et elle, ils sont retrouvés à Berlin, puis après ils sont retrouvés à Paris, après qu'il ait signé la charte 77, et qu'elle-même est rentrée un jour pour des raisons personnelles, en Tchécoslovaquie, n'a pas pu retourner avant 4 ans, je crois qu'elle arrivait au début des années 80, elle n'a pas pu retourner revoir son mari avant quelques années, puisque les autorités communistes l'ont empêché, mais elle a quand même vécu à Paris avec Jiří Kolář. Quelle a été leur vie un petit peu là-bas?
Béla Kolářová a dû revenir à Prague à cause des raisons administratives, on pourrait dire, parce que tout leur choses étaient à Prague, une grande collection et tout ça. Et alors, cette séparation de collages, je pense, a ouvert l'espace pour sa création personnelle. Alors, dans cette époque, dans cette période de la première moitié des années 80, elle a beaucoup travaillé sur les assemblages qui ont un sujet très très personnel, qui sont très autobiographiques, on pourrait dire. Quand elle est revenue, elle était en relation avec Kolář, dans une relation régulière, quotidienne, à l'aide des cartes postales qui se sont envoyées. Et après le retour en France, elle travaillait, elle même collaborait avec Kolář. Il y a une série des œuvres de réalisations des poètes juste français qui étaient faits dans la collaboration avec Kolář. Kolář a fait des collages de surfaces et Béla a fait des assemblages à l'aide de la bijouterie, des choses de ce genre. Mais elle exposait un tout petit peu, mais elle était vraiment toujours dans l'ombre de Kolář.
Et lui-même, comment considérait-il l'œuvre de sa femme?
Béla Kolářová disait qu'il acceptait son travail, mais je dirais qu'il était tellement concentré à son propre œuvre que qu'on ne pourrait pas dire qu'il faisait trop de choses
pour l'encourager.
Oui, je pense qu'il ne l'encourageait pas trop.
Béla Kolářová est décédée en 2010, entre la mort de son mari et son décès à elle. Vous avez dit que finalement c'est à ce moment-là un petit peu que son œuvre a été redécouverte, réappréciée sous un autre angle, que la situation s'est un peu retournée finalement. Comment elle-même vivait-elle cette gloire soudaine?
Elle était heureuse, bien sûr, mais elle restait très modeste. Je pense que chaque fois, de nouveau, elle était étonnée de cet intérêt de la côté de l'étranger, par exemple, parce qu'elle n'avait pas cette nécessité de faire une carrière artistique. Mais elle était, bien sûr, très, très, très heureuse quand les gens de l'étranger venaient, des curateurs de Tate moderne, et quand elle était exposée dans le cadre de Documenta 12, c'était pour elle quelque chose d'incroyable. Oui, alors, elle était contente, mais elle était déjà trop vieille. Elle ne pouvait pas, par exemple, elle ne pouvait pas participer, elle ne pouvait pas venir voir ses œuvres à Kassel ou à Munich, dans les destinations assez prestigieuses.
Est-ce qu'elle a créé jusqu'à sa disparition?
Oui. Elle a créé, elle a fait encore, je pense que sa dernière assemblage était fait dans la dernière année de sa vie.
Après cette rencontre autour de l'œuvre de Béla Kolářová, place, chers auditeurs, à vos lettres, questions, remarques et suggestions. Ce sera avec Jean-Sébastien Létang.
Courrier des auditeurs. Chers auditeurs, nous avons encore reçu de nombreux messages en cette fin de mois de janvier. Lettres, rapports d'écoute et encore quelques vœux de bonne année. Merci à tous et nous espérons que 2012 est bien débuté pour vous. Tout d'abord, merci pour tous ceux qui nous ont fait parvenir leurs vœux de bonne année. Merci pour les cartes et les courriels de Guy Lelouet, de Maurice Mercier et d'Anthony Lezer, mais aussi à tous ceux que nous oublions sûrement. Merci à Christian Guibaudeau pour son message de soutien. Il nous écrit.
J'espère que l'année 2012 a bien débuté pour vous, malgré la tristesse de cette fin d'année 2011 avec la disparition de Václav Havel. Dans quelques jours, il y aura le nouvel an chinois. La communauté asiatique progresse-t-elle en Tchéquie? D'ailleurs, les non-asiatiques fêtent-ils ce nouvel an chinois?
Notre collègue Anna Kubishta vient justement de rédiger un article complet sur les festivités au sein de l'importante communauté vietnamienne de Prague. Vous pourrez bien sûr les retrouver sur le site. Et puisque vous nous demandiez si nous avions gagné ou bien perdu des auditeurs depuis la fin du Hertzien, nous n'avons pas de statistiques précises, mais nous espérons que les anciens auditeurs ne nous ont pas abandonnés pour autant. Cependant, vu le développement des médias sur Internet, nous pensons pouvoir attirer un nouveau public par ce moyen. Par ailleurs, saluons nos fidèles auditeurs d'Afrique du Nord. Monsieur Abdelhamid Djebari d'Algérie, que nous remercions pour ses encouragements, nous écrit pour nous demander des informations sur le système d'éducation en République tchèque. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter la rubrique « Éducation » de notre site internet, laquelle bien fournie vous donnera une vue d'ensemble sur l'éducation en Tchéquie. Bonjour à monsieur Mohamed Achouret de Rabat au Maroc, qui nous a envoyé une longue lettre manuscrite. Il nous est toujours agréable de recevoir de véritables mots écrits sur le papier. Merci pour vos vœux et pour nous avoir fait partager votre histoire très intéressante concernant vos voyages dans la vieille Europe. Nous vous souhaitons également une bonne et heureuse année 2012, un bon hiver et espérons que votre femme se remettra rapidement de sa maladie contractée en Chine. Et bien sûr, merci de votre fidélité. Nous avons également reçu un message de Mademoiselle Magdolaine Abdoul qui nous écrit d'Algérie en ces termes.
Salutations, c'est vraiment un plaisir pour moi de vous écrire encore après des années d'absence dues aux multiples occupations et au business qui absorbe un maximum d'énergie et de temps de nos jours où le temps s'envole si vite. Je profite donc de l'occasion du nouvel an et de Noël afin de vous adresser mes meilleurs vœux de bonheur et de prospérité.
Par ailleurs, en ce qui concerne votre question à propos des formalités d'immigration en République tchèque, vous pouvez retrouver toutes ces informations sur Internet. Des sites sont spécialement dédiés à l'aide des migrants, tels que Doma Večere, www.en.domavecer.cz, ou pour la langue, Czech for Foreigners, checkyourcheck.com. Nous ne savons pas s'il existe des manuels de langue tchèque disponibles en Algérie, mais vous pouvez sûrement les commander online. La plupart sont en anglais, tels que Czech Step by Step, Communicative Czech, le meilleur restant celui de l'Université Charles de Prague nommé Basic Czech. Enfin, salutations à Monsieur Philippe Aubré, auditeur très fidèle, qui nous a envoyé beaucoup de messages concernant l'actualité tchèque et qui nous écoute à son travail depuis la Côte d'Ivoire. Nous espérons que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Toute la rédaction francophone de Radio Prague vous dit un grand merci à tous pour votre fidélité et s'excuse si des lettres ont été oubliées. Continuez à nous écrire des messages et à nous poser vos questions. Nous ne manquerons pas d'y répondre dans le prochain courrier. Bonne journée à tous et au plaisir de se recroiser sur les ondes de Radio Prague.
Merci à Jean-Sébastien Letton et à Václav Richter pour ce courrier des auditeurs. Il y a 150 ans, le 21 janvier 1862, la littérature tchèque a perdu Božena Němcová, une de ses plus grandes figures. Les obsèques grandioses que Prague lui a préparées étaient en violent contraste avec le dénuement dans lequel la première romancière tchèque avait vécu dans les périodes les plus difficiles de son existence. Václav Richter évoquera pour vous la vie et l'œuvre de cette femme qui a ressuscité dans son œuvre la langue tchèque.
Rencontre littéraire. 150 ans après sa mort, Božena Němcová reste la femme de lettres tchèques la plus célèbre et la plus respectée. Son chef-d'œuvre Babička, Grand-mère, est sorti en plus de 350 éditions et reste un des livres tchèques les plus populaires, sinon les plus lus. Nous assistons à un regain d'intérêt pour l'œuvre de Božena Němcová et surtout pour sa vie qui nous apparaît aujourd'hui, elle aussi, comme un roman passionnant. L'image que nous nous faisons de cette femme, qui continue encore à exercer sa séduction au seuil du XXIe siècle, se transforme avec le temps. Chaque génération y trouve et y ajoute quelque chose de nouveau. Chaque génération projette dans ce destin ses préoccupations et ses aspirations. Qui donc était Božena Němcová? Comment faire émerger son image réelle de la profondeur du temps? Était-elle cette apparition vêtue de lumière, comme la voyait le poète Jaroslav Seifert, ou cette femme prématurément vieillie, ravagée par le sort, qu'on voit sur sa dernière photo? Était-elle vraiment Notre-Dame Božena Němcová, titre quasi religieux que lui a donné le poète František Halas, ou cette femme têtue, égoïste et adultère qui provoquait chez son mari de terribles accès de colère? En quoi résidait son charme qui subjuguait les hommes de son entourage? Quelles étaient les sources de son génie? Des générations de chercheurs et de simples lecteurs se sont posées ces questions et ont donné des réponses souvent bien différentes. Le professeur de la faculté de pédagogie de l'université Charles, André Hausenblas, estime pourtant que nous sommes aujourd'hui dans une meilleure position que ses contemporains pour pouvoir apprécier Božena Němcová à sa juste valeur.
Ils n'acceptaient pas sans réserve son comportement dans la société, sa situation sociale et politique. Par contre, nous la regardons déjà avec un certain recul et voyons qu'elle est un excellent exemple d'une femme émancipée. Elle n'est pas féministe, mais une femme émancipée, et ce qu'elle fait, elle le fait en pleine conscience de ses actes. C'est ainsi qu'elle se lançait dans ses liaisons amoureuses. C'est avec le même élan qu'elle abordait la création littéraire, et c'est ainsi également qu'elle s'occupait de ses enfants, les éduquait et préparait leur avenir.
Toutes les images de Božena Němcová que nous livre l'histoire et qui sont souvent bien contradictoires ont pourtant un dénominateur commun, un trait typique pour sa vie et pour tous ses actes.
Tout ce qu'elle a fait, et même ses actes discutables, même ses erreurs, elle l'a fait avec sincérité. Toute sa vie, elle a cherché à agir ouvertement et librement. Je souhaitais être meilleur, je voulais obéir à la vérité, mais le monde m'obligeait à mentir, a-t-elle écrit. Je vois que le monde décrit ce qu'il y a de plus beau dans l'être humain. Il prend pour péché ce qui est naturel et spontané. Celui qui ne court pas avec le troupeau à la mangeoire est crucifié. Qui ne le fait pas est un martyr. Bojena Nemtsova est née à Vienne probablement en 1820. Elle est la fille d'une servante dans une maison aristocratique. La date de sa naissance n'est pas certaine et son origine fait l'objet de nombreuses spéculations car selon plusieurs théories qui restent cependant à prouver, elle pourrait être en réalité fille illégitime d'une grande dame et même de la duchesse Wilhelmine de Sagan qui lui a servi de modèle pour un personnage de son futur chef-d'œuvre. La jeune fille, qui s'appelle Barbara Pankl, s'installe bientôt avec sa famille dans le domaine de Ratibořice en Bohême. C'est là où cette jeune fille qui ne parle qu'allemand commence à apprendre le tchèque. C'est à Ratibořice qu'elle passera une enfance heureuse grâce aussi à la présence de sa grand-mère maternelle qu'elle immortalisera dans son livre. La jeune fille, d'une beauté saisissante, n'a que 17 ans lorsqu'elle se marie avec le commissaire des douanes Josef Niemetz auquel elle donnera 5 enfants. Elle partage le patriotisme ardent de son mari et pourtant leur mariage n'est pas heureux. En 1842, le couple s'établit à Prague et la jeune femme entre dans les milieux tchèques. Elle commence à écrire. Elle aspire avidement l'atmosphère artistique et intellectuelle de la grande ville. Elle devient la muse des cénacles patriotiques. Elle fait rêver les jeunes hommes de son entourage. La critique littéraire, Libuša Hečková, évoque cette atmosphère dans laquelle la future romancière a pris son envol.
À cette époque étaient discutés à Prague des problèmes importants traités par la littérature allemande et la littérature française. Et il n'est pas étonnant que les jeunes intellectuels pragois, dont Herzelet, Nebesky, Čejka et autres, auraient aimé voir dans Božena Němcová une nouvelle George Sand. Mais ce n'était pas que George Sand, il y avait aussi d'autres grands auteurs comme le philosophe Hegel ou Johann Wolfgang Goethe et son Faust qui alimenter la discussion entre Božena Němcová et ses proches amis, parfois ses amants, et c'est ce qui l'a poussé en avant et c'est ce que nous ne devons pas oublier.
A to je to, co jí posouvalo dál a na co bychom neměli zapomenout.
Le patriotisme de Josef Niemetz provoque la méfiance de ses supérieurs et il est souvent muté. C'est avec lui que la jeune femme qui prend le nom patriotique de Božena connaîtra plusieurs régions de Bohême et de Slovaquie. Esprit ouvert, elle saura exploiter ses séjours involontaires et puiser son inspiration pour sa création littéraire. Libuša Hečková rappelle que ses séjours ont initié la jeune écrivaine aux problèmes et à la condition du peuple de la campagne.
Folklorem se Božena Němcová začala zabývat v Praze.
C'est à Prague que Božena Němcová a commencé à s'intéresser au folklore. L'engouement pour le folklore était de bon ton à l'époque. Chaque cénacle patriotique s'y intéressait. Božena Němcová a cependant bien modifié son rapport vis-à-vis de la campagne lors de son séjour dans la région de Domažlice en Bohême de l'Ouest, où elle cherchait le folklore local. Elle y a compris ce que c'était la vie à la campagne, combien y était difficile la situation sociale et a fini par évoquer la vie rurale et ses aspects sociaux dans ses textes.
Les années 1850 dans la vie de Božena Němcová ne sont pas heureuses. La situation matérielle du couple se détériore. Josef Niemetz est puni par les autorités pour ses opinions patriotiques, perd finalement son emploi et est obligé de partir à la retraite. Les rapports entre les époux en souffrent. Josef Niemetz, jaloux des amis masculins de sa femme, se laisse emporter par la colère et l'agressivité. La santé de Božena et de ses enfants n'est pas bonne non plus. Son fils Hinek, garçon intelligent et doué, meurt à 15 ans de tuberculose. Au bord du désespoir, sa mère cherche la consolation en évoquant les années heureuses de son enfance de Ratibořice. Elle ne sait pas que c'est en écrivant ce tableau de la vie campagnarde intitulé « Grand-mère » qu'elle a jeté les fondements de la prose tchèque moderne. Au début des années 1860, Božena Němcová mobilise encore une fois ses forces, quitte son mari et s'installe dans la ville de Litomyšl où elle espère pouvoir gagner sa vie par le travail littéraire. Mais bientôt elle doit se rendre à l'évidence. Ses forces sont épuisées. Grièvement malade, elle rentre à Prague pour y mourir le 21 janvier 1862. Elle n'a que 42 ans, mais elle laisse derrière elle une œuvre d'une grande richesse et d'une grande variété. Contes, nouvelles, contes de fées, récits de voyages, recueils de souvenirs et une vaste correspondance qui ne sera publiée dans son ensemble qu'au tournant des 20e et 21e siècles. Pavel Janoušek de l'Institut de littérature tchèque évoque l'importance de cette œuvre pour la littérature et la culture tchèque.
Cette femme de lettres a dépassé d'une façon importante les standards de son époque. Elle a beaucoup contribué à l'évolution de la littérature tchèque, à l'évolution de la prose, au style de narration, que ce soit dans ses livres Grand-mère ou Barala Sauvage, dans certains de ses contes. Mais je pense que ce qui illustre aujourd'hui son niveau littéraire, la largeur de ses vues, son mode de pensée, c'est sa correspondance. C'est une plongée fascinante dans la vie d'une femme.
Chers auditeurs, c'est par cette rencontre littéraire consacrée aujourd'hui à l'écrivaine tchèque Božena Němcová, décédée il y a 150 ans, que prend fin cette émission préparée par la rédaction française de Radio Prague et présentée par Magdalena Hrozinková. Demain, rendez-vous avec Paul Bauer dans le magazine musical. Vous trouverez tous nos programmes sur internet au www.radio.cz/fr. Bonne fin de week-end. Au revoir. Naslyšenou.
Radio Praga.